À Rencontre spirituelle aujourd'hui, sera question d'un des missionnaires les plus extraordinaires du 20e siècle. Certains disent que c'est même le plus extraordinaire, c'est le père Vincent Lebbe, un Belge, bien en partie Belge, et qui est entré dans la congrégation des Lazaristes fondée par Saint Vincent de Paul. C'est d'ailleurs un peu pourquoi il a pris le nom de Vincent, alors que son vrai prénom de baptême, c'est Frédéric. Et Vincent Lebbe est devenu l'apôtre de la Chine. C'est son titre. Un peu comme Saint François Xavier a un grand titre de missionnaire, quelques siècles avant, ce jésuite. Eh bien, Vincent Lebbe a ce titre et malheureusement pas assez connu à mon avis, mais quand on connaît sa vie, quand on lit ce qu'il a fait, c'est absolument phénoménal. Il est né à Gand, en Belgique, le 19 août 1877, d'un père flamand, mais on utilisait le français à la maison. Son père avait fait son droit, va devenir avocat, et sa mère était d'origine assez étonnante, franco-anglaise, étrange mélange, convertie de l'anglicanisme au catholicisme et d'une façon très fervente. Le Vincent, ou Frédéric, si on veut, va être l'aîné de 9 enfants, grosse famille. Et à sa confirmation, on avait le droit de prendre un nom. Il a pris le nom de Vincent, mais il l'a surtout pris en tant que religieux, plus tard. Et avant sa 9e année, il fait avec sa famille, dont la langue, je vous ai dit, le français, un séjour de plusieurs années à Paris. Et le reste de son enfance, son adolescence, se passe dans une petite ville que vous connaissez probablement, Ypres, avec un Y au début, où il achève son cours classique. À 18 ans, il le finit très brillamment. Hein, il est brillant, très brillant. Il va apprendre je ne sais pas combien de langues. C'est une sorte de génie que ce garçon qui va devenir ce grand missionnaire. À 18 ans, d'ailleurs, le 6 novembre 1895, il entre déjà comme postulant dans la congrégation des prêtres de la mission. C'est comme ça qu'on appelle les Lazaristes. C'est sur la rue de Sèvres où j'ai logé au mois de juin chez les Lazaristes à Paris. Et c'est pas loin du Bon Marché. C'est pas loin, disons, si vous voulez, de Saint-Sulpice, de l'Institut catholique, etc. Puis, il devient ainsi réellement un fils de Saint-Vincent de Paul en entrant chez les Lazaristes. Il en est très fier. Et le 15 janvier 1901, 5 mois après la fin de ce fameux soulèvement nationaliste chinois et xénophobe là, des boxeurs, il quitte Rome pour la Chine, où, à la fin de mars, il est incorporé déjà à la mission lazariste de Pékin. C'est dans le nord de la Chine, près de Tientsin, et c'est où il arrive d'abord. Il prend le train pour se rendre à Pékin. C'est un très long voyage, à partir de Rome. Et il y termine ses études sacerdotales avec ses confrères chinois. Et chose assez étonnante, il apprend la langue très rapidement. Son aptitude pour la langue chinoise surprend un peu tout le monde. Et il devient finalement un séminariste chinois assez rapidement. Et alors, il va d'ailleurs se faire naturaliser chinois, imaginez. Alors, il est ordonné prêtre un 28 octobre, l'anniversaire aujourd'hui, de 1901, à 24 ans. Tour à tour, il va s'occuper des postes importants. Poste de, d'abord au début de vicaire, puis de curé déjà, et puis de directeur de district, et enfin de vicaire général de l'évêque de Tientsin. C'est au sud de Pékin, n'est-ce pas, un petit peu. Dans le nord, toujours de la Chine. Il travaille 12 ans dans cette ville où il met au point sa méthode, qu'on appellera la méthode de Tientsin. Il y poursuit avec un succès grandissant une expérience missionnaire de très grande portée. C'est phénoménal. Et sa méthode vise d'abord à la transformation de l'Église de Chine, la mission de Chine, en Église de Chine, Au lieu d'être simplement une espèce de transposition du catholicisme européen en Chine, il veut faire que ce soit une église chinoise, avec des évêques, comme on dit, autochtones, des Chinois, et toutes les œuvres dont elle a besoin seront chinoises. Et la méthode qu'il qualifie, dans le terme de l'époque, d'apologétique, se base sur le respect le plus sincère. Le respect le plus sincère du patriotisme chinois, c'est normal. Il donne l'exemple, il dit, s'il fallait qu'on essaie de transporter l'église belge en France, les Français seraient fâchés. Ou l'église italienne en France, les Français seraient fâchés. Les prêtres et les laïcs qui vont dans un autre pays doivent s'insérer, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Il comprend ça, en particulier avec la Chine, et c'était pas très bien compris à l'époque. C'est le même problème que le problème de Matteo Ricci, dont je vous parlerai dans quelques mois. Ce fameux jésuite qui a évangélisé la Chine avant, évidemment, notre père Leb, plusieurs siècles avant, et qui a failli convertir toute la Chine. S'il avait pu arriver à faire de l'Église catholique en Chine une Église chinoise, unie à Rome, évidemment. Alors, il se heurte à des préjugés tenaces, évidemment. Et il y a plusieurs moments dans la vie du Père Leb où les contradictions qu'il doit subir pour rester fidèle à sa vocation missionnaire, ça l'a crucifié à certains moments. C'était très dur. D'ailleurs, un de ceux qui s'oppose le plus à lui, c'est un de ses supérieurs, à Ningpo, au sud de Shanghai. Et il est amené à remettre à son nouvel évêque, Mgr Reynaud, une longue lettre, où il expose son état d'âme, son déchirement, les raisons de son attitude, puis les arguments sur lesquels s'appuient ses thèses de cette transformation de l'Église. Au sujet de cette lettre, d'ailleurs, dont Pierre-Célestin Lutzentiang, je vous en ai déjà parlé, je vais vous faire vraiment une belle émission sur cet ancien premier ministre de Chine qui est devenu catholique et qui est devenu abbé d'un monastère bénédictin en Belgique, dont Pierre-Célestin Lutzentiang. Je vous ferai une émission le 15 janvier prochain. Je vous en avais fait une en 96. Il a dit à ce sujet en 1945, dans ses souvenirs et pensées, bon, c'est passionnant de lire ça de Don Pierre-Célestin Lutzentiang, le document le plus compréhensif du mouvement apostolique soulevé par le Père Leb est, je pense, dit Don Lou, la lettre qu'en 1917, le 18 septembre, il a écrite au vicaire apostolique de Ningpo. Elle a été transmise au Saint-Siège et elle donne, dit-il, un tableau frappant de la situation religieuse dont les papes allaient diriger le redressement, parce qu'il a eu une influence sur les papes, particulièrement sur Pie XI, vous allez voir. Alors, le conflit se trouve encore aggravé par la Grande Guerre de 14-18, ses répercussions dans une Chine qui est hostile aux Blancs, aux Alliés, ses oppresseurs, sur le chantier de Tianjin. Toujours dans le nord de la Chine, le travail tel que le Père Leb l'a conçu est arrêté. Et en mars 1920, après la guerre, 3 ans plus tard, donc, il regagne l'Europe. Il est plus ou moins renvoyé là-bas, c'est-à-dire la France. Avec pour objectif quand même, ce qu'il veut, lui, c'est de faire la conquête des étudiants chinois qui s'y sont rendus en grand nombre après l'armistice de 1918 pour faire des études, se perfectionner. Et pendant 7 ans, il va se consacrer à une tâche de missionnaire auprès des Chinois en France. Ces étudiants-là, non seulement ils sillonnent la France et la Belgique, mais ils vont jusqu'en Suisse, en Italie, en Hollande, en Angleterre, toujours avec le même but. Et le centre de son œuvre, au Père Vincent Leb, se déplace assez rapidement de France en Belgique, où le fameux cardinal Mercier, dont je vous ai parlé là, le 23 janvier 98, fameux cardinal Mercier, l'un des hommes les plus remarquables du début de notre siècle, mais lui accorde un appui sans réserve, parce que le cardinal Mercier, qui était un grand écuméniste, a compris ça. Il a le cœur ouvert, le cardinal Mercier. Quand le père Leb va repartir pour la Chine, là, après 7 ans, il va avoir, écoutez bien, baptisé de sa main plus de 300 étudiants chinois. Puis, il a fondé à Louvain une société très importante, c'est la Société des prêtres auxiliaires des missions, qui ne peuvent servir que sous des évêques, disons, de couleur, comme on dit. Et le 30 novembre 1919, c'était encore le Benoît XV qui était là, a donné à l'Église son encyclique remarquable, Maximum Illud, puis surtout le 28 février 1926, et Pie XI, son successeur, qui publie l'encyclique Rerum Ecclesiae. Ces deux documents bouleversent les conceptions missionnaires, qui se sont établies petit à petit là, du 16e au 20e siècle. Et ces deux encycliques, bien, elles restaurent la conception des premiers temps de l'Église. Et après, d'ailleurs, après les apôtres, là, c'est une restauration à laquelle le père Vincent Leb, pour sa part, a travaillé de toute son âme et de toutes ses forces. Et imaginez que le 28 octobre, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1926, 8 mois à peine après la publication de son encyclique missionnaire, Pie XI consacre de sa main à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, 6 évêques chinois. Enfin! Et ce jour-là, à la fête des saints apôtres Simon et Jude, c'est leur fête aujourd'hui, hein, je vous avais déjà fait une émission sur eux, il y a quelques années, eh bien, le père Leb, qui était présent au sacre, commémore, lui, le 25e anniversaire de son ordination sacerdotale. Ça lui tombe comme un cadeau. Et c'est sous l'un de ces 6 nouveaux évêques, son confrère Lazariste, c'est un évêque chinois Lazariste, disciple de Saint-Vincent-de-Paul, donc Monseigneur Souen, évêque de Lichien, dans le nord toujours, de la Chine, que par la volonté de Rome, le père Leb reprend sa carrière en Chine. Il arrive au Lichien en avril 1927, en pleine guerre civile. Et le 8 août de la même année, il reçoit la grande naturalisation chinoise. Il se fait chinois avec les Chinois. La naturalisation qu'il a sollicitée comme logique avec ses pensées sur l'apostolat missionnaire en Chine. Et son activité la plus saillante est au commencement la préparation de la fondation de l'action catholique dans la région. Il veut introduire les laïcs chinois catholiques dans une action profonde. Puis il participe à l'organisation nationale de cette branche importante de l'apostolat des laïcs dans l'Église de Chine. En décembre 1928, imaginez, il crée une espèce de compagnie religieuse, si vous voulez, les petits frères de Saint-Jean-Baptiste à Hankou, où Monseigneur Souen, son évêque, là, a transféré son siège. Au monastère, ils font ça au monastère des Béatitudes. Curieux, ça s'appelle déjà le monastère des Béatitudes, comme on a une communauté des Béatitudes aujourd'hui, qui a été fondée par le frère Éphraïm et qui est très répandue dans une cinquantaine de monastères à travers le monde déjà. Et c'est une compagnie masculine, donc, puis il va y avoir une compagnie féminine, les Thérésiennes, en l'honneur de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, qui vient d'être canonisée. Et les deux constituent le début du monachisme purement chinois. Comme quoi, il a une influence énorme, hein? Et le 4 juillet 1933, le père Vincent Leb, avec la permission de Rome, sort donc de la compagnie des Lazaristes avec beaucoup de regrets quand même, et il va rester jusqu'à sa mort prêtre du diocèse d'Ankuo et abbé du monastère des Béatitudes tout en étant très actif. Et j'ajoute ici qu'en 1935, il fonde à distance, chose étrange, en Belgique, sans y aller, les auxiliaires laïques féminines des missions qui vont énormément aider son travail et le travail des missionnaires en Chine. L'hiver 1932-33, le Japon attaque une première fois la Chine. Vous êtes au courant que dans les années 30, il y a une guerre importante, une attaque du Japon. Le père Leb mobilise ses moines, qui encadrent quelques 200 laïcs comme brancardiers, pas comme pour tirer sur les Japonais, mais comme brancardiers. Et il fait avec eux campagne dans la 29e armée. Un peu surprenant, après avoir fondé un monastère, mais pour ainsi dire, quelques années plus tôt, à peine, 5 ans plus tôt. En 1936, à la 2e attaque japonaise, il renouvelle cette mobilisation, puis il fait campagne en Mongolie cette fois. Au mois d'août 1937, je passe assez vite, hein, parce que je voudrais arriver à sa pensée, sa spiritualité. En août 1937, il recommence pour la 3e fois cet exploit civique, militaire et apostolique tout ensemble. Alors, donc, le Japon, depuis le 7 juillet 1937, a cette fois attaqué la Chine en grand, là. bien décidé à la soumettre de façon définitive. Je me souviens, j'avais 10 ans, et on parlait beaucoup de cette guerre épouvantable. Le père Leb, citoyen chinois, donc, se jette à corps perdu, avec la permission de son évêque, évidemment, dans la guerre de résistance, pas une guerre où il tire dessus, je le répète. Outre qu'il crée à nouveau un corps de brancardier, là, il suscite la création de 2 compagnies, quand même de francs-tireurs. Il met sur pied un organisme catholique de soutien moral de la Chine qui lutte pour son existence. Ça s'appelle le service du peuple dans la Chine du Nord. Alors, le père Vincent Leb devient successivement, on lui donne des titres, capitaine, colonel, puis même général. C'est que les autorités civiles et militaires de son pays d'adoption lui témoignent un vif respect, une admiration profonde, sa réputation déjà très grande en Chine du Nord s'étend très loin dans le reste du pays, et le père Vincent Leb, missionnaire, fait figure de héros national. Sa tête est mise à prix par les Japonais. Mais catastrophe, en février 1940, écoutez bien, 12 de ses petits frères de Saint-Jean-Baptiste sont enterrés vivants par une troupe communiste. Imaginez pour un père, car ce sont comme ses enfants. 12. Il en reçoit un choc très dur pour sa santé, qui est déjà très ébranlé par un travail épouvantable et des fatigues excessives. Alors, du 9 mars au 17 avril 1940, il est retenu prisonnier par l'armée du général communiste Liu Poqing. Et à un moment donné, il se voit condamné à être enterré vivant. Alors on lui permet de se confesser, mais le généralissime Chiang Kai-shek, vous vous souvenez peut-être, les gens plus âgés, Chiang Kai-shek, qui luttait contre les communistes, est intervenu. Et puis les communistes se libèrent, ils ont peur un peu de l'armée de Chiang Kai-shek. Et le 13 juin, il est transféré très malade à l'hôpital de Luoyang, dans le Honan, à Chongqing, capitale de guerre de la Chine. Et c'est là qu'il y succombe d'un cancer au foie et d'un éclatement de la vésicule biliaire le lundi 24 juin 1940, en la fête de la nativité de Saint-Jean-Baptiste, comme vous savez, qui est le patron de ses petits frères de Saint-Jean-Baptiste, et patron, comme vous savez, du Québec. Il était âgé d'un peu moins de 63 ans. Le 18 juillet, par un décret officiel du gouvernement chinois, donc moins d'un mois plus tard, un hommage national est rendu au père Vincent Leb. Et la décision est prise qu'après la victoire, le gouvernement fera ériger un monument public à sa mémoire. Le 15 septembre, donc 1940, toujours la même année, le cardinal Fumazo Nibion, dit préfet de la propagande, ça s'appelle comme ça, c'est la congrégation qui dirige, qui propage, on le sait, les missions de l'Église. C'est pour ça que ça s'appelle la propagande. Il faut prendre ça dans le bon sens. Mais il adresse à l'évêque du père Leb, le successeur de Monseigneur Swan, qui s'appelle Monseigneur Wang, des condoléances très, très élogieuses pour la mort de l'apôtre de la Chine, en dépit du fait qu'il avait été l'objet d'opposition à certains moments. Vous savez, l'évêque de Liège, en Belgique, Monseigneur Louis-Joseph Kerkhoffs, qui était très connu à l'époque, et qui a bien connu le père Leb, qui l'a aimé et admiré, qui l'a aidé à fonder la Société des prêtres auxiliaires des missions, dont je vous ai parlé, a écrit les lignes suivantes. C'est un témoignage extraordinaire. Le père Leb ne fut pas seulement un merveilleux missionnaire d'un dévouement sans limite et d'un désintéressement total, mettant au service de son idéal les ressources d'une nature richement douée à tous égards. Il fut aussi un précurseur, un pionnier, un homme de la providence de Dieu, dont les initiatives hardies devaient inaugurer une nouvelle ère du catholicisme en Chine. D'avoir fait faire un pas énorme à l'épiscopat indigène, c'était au jugement de Monseigneur Yupin. Monseigneur Yupin était archevêque chinois de Nanking. D'avoir fait faire un pas énorme à l'épiscopat indigène, c'était une chose importante. mais non le principal de l'œuvre du père Vincent Leb, dit Monseigneur Youpin. Ce qu'il a fait de plus grand chez nous, c'est d'avoir réintroduit le catholique chinois dans la vie chinoise. Avec l'Action catholique, là. Ainsi fut enlevé le dernier obstacle au baptême de la Chine et de sa civilisation. Oh, j'ai d'autres témoignages tellement merveilleux. En se faisant chinois, totalement chinois, intérieurement et extérieurement, de langue et de costume. Oui, parce que c'est bien la chinoise avant de prendre le costume monastique quand il est devenu abbé de son monastère. Et même ce costume monastique ressemblait un peu à celui des paysans chinois. En se faisant chinois, totalement chinois, donc intérieurement, extérieurement, de langue et de costume, de pensée et de sentiment, le père Leb n'a fait que suivre la méthode des grands missionnaires de Chine, celle notamment de l'illustre père Matteo Ricci, jésuite, dont je vous parlerai le 11 mai prochain, ce sera la 851e émission, et il a rejoint celle de Saint-Paul lui-même, la méthode de Saint-Paul lui-même, en se faisant tout à tous, comme dit Saint-Paul, pour les gagner tous au Christ. L'Église que le père Leb rêvait pour la Chine n'est-elle pas l'authentique Église catholique dont Pie XII, dont je vous ai parlé aussi récemment, dont Pie XII disait dans son message de Noël 1945, à la fin de la guerre, l'Église est supranationale dans son essence. L'Église est la mère de toutes les nations et de tous les peuples. L'Église ne l'est pas moins de tous les individus, et précisément parce qu'elle est mère, l'Église n'appartient pas exclusivement à un ou l'autre peuple, mais à tous de manière égale. Aussi vue à distance à la lumière des faits actuels, des résultats acquis, l'attitude adoptée par le père Vincent Leb peut nous paraître toute simple et toute naturelle. Pour l'apprécier à sa valeur, dit le pape Pie XII, il faut la considérer dans son temps et dans son milieu. Le père Léopold Levaux-Lazaris écrit ceci au sujet du père Leb. Et c'est un des plus beaux témoignages d'un prêtre à l'égard d'un autre prêtre. Pour ma part, dès les premiers moments où j'ai pu lui parler en 1923, je l'ai considéré comme un père spirituel, comme un guide exceptionnellement autorisé, comme un homme de Dieu qui avait beaucoup de choses à dire et à me dire de la part de Dieu. Sa sainteté, qui avait été exaltée par quelqu'un devant moi, me frappa au premier abord, sans aucun doute possible, plus haut que l'éloge même ne m'en avait frappé. Pour moi et pour combien d'autres, le père Leb était saint. C'était un saint. Et là, il met une majuscule. Son humilité, dit-il, vraiment fondamentale, saisissait et ravissait. L'harmonie des vertus liées par une prudence toute vivifiée de sainte audace s'attestait en lui souveraine. Je n'ai jamais rencontré un humain aussi fascinant. Rien dans sa personne, dit le père Levaux, rien dans sa personne n'arrêtait l'élan qui entraîna vers lui tant d'êtres divers en tant de milieux dissemblables. Aucune peur de s'y faire mal à quelques barrières, d'y trébucher comme la plupart d'entre nous, même de quelques vertus dans un piège tendu par les imperfections du caractère ou par le péché. Lui, il attirait, sans réserve, hormis la crainte révérentielle que suscitait la présence sacrée et sensible de Dieu en lui. Aussi bien comme l'a fait observer Saint Jean Chrysostome, je cite Saint Jean Chrysostome, « C'est même lorsque l'amour se tempère de crainte qu'il est le plus affectueux et le plus vif. » Et le père Levaux ajoute, « L'austère et exact religieux était un doux et un humble de cœur, et partout où il est passé, ce n'a été qu'en faisant le bien, exclusivement le bien, et toujours un bien adéquat à la ressemblance du divin maître. » Le chanoine Jacques Leclerc, un des hommes les plus remarquables, vous direz que je donne ces titres-là à tout le monde, mais je vous assure, c'est l'auteur d'une soixantaine de volumes, qui a écrit des essais de morale catholique extrêmement importants. Il a écrit aussi « Dialogue de l'homme et de Dieu », Il écrit sur le mariage chrétien, sur la vocation religieuse aussi, sur les valeurs chrétiennes. Et des vies de saints, Catherine de Sienne, François de Sales, etc. Sur la Sainte Vierge, mère de notre joie. Et puis, des leçons de droit naturel, et puis, penser chrétiennement notre temps. Tout ça, puis il écrit une immense vie du Père Leb. Immense, elle est très importante, 350 pages, admirablement bien écrite. Et il a aussi écrit une autre vie du Père Leb, plus courte. Et je prends la fin pour vous montrer comment est mort le Père Leb. Nous sommes passés très rapidement tout à l'heure. Et vous verrez quelle importance il avait en Chine. Je vous lis donc ce qu'écrit le chanoine Leclerc. Tandis qu'il déjeunait à l'évêché, un frère est arrivé. Ils se sont regardés en silence, les larmes aux yeux. Le destin du Père Leb était inscrit sur tous ses traits. Les reins, le foie, rien n'allait plus. Son ventre était gonflé. Il digérait difficilement. Sa face était jaune et cireuse. On le transporte à l'hôpital militaire et il y reste plus d'un mois. Les reins surtout le font souffrir. Il dit, si je n'avais pas la foi, je me suiciderais. Vous avez entendu? Un saint ne se suicide pas, même au cru d'une souffrance épouvantable. Si je n'avais pas la foi, je me suiciderais. Parfois, un moment de relâche fait renaître l'espoir. Il recommence à faire des plans, à ruminer de grands projets. Un jour, il demande qu'on fasse venir les frères, ses frères, sa communauté, présents dans la maison. Quand ils sont réunis, il s'agenouille sur son lit, les larmes aux yeux. « Mes chers petits frères, pardonnez-moi de vous avoir parfois fait des reproches. » Et là, les petits frères tombent à genoux en pleurant. Ce sont des Chinois. Hein? Mais le mal s'aggrave. Il n'a plus la force de parler. Il accueille les visiteurs d'un sourire. Il reste imperturbablement optimiste. Il croit qu'il va s'en tirer. Il refuse l'extrême-onction. Parce que dans ce temps-là, la conception, c'est que l'extrême-onction ne s'accorde qu'au moment de la mort. C'est pas comme le sacrement des malades que c'est devenu aujourd'hui, hein? Je dis pour les jeunes. Hein? Alerté par télégramme, le maréchal envoie un avion spécial qui dépose le Père Leb à Chongqing le 13 juin. Des amis l'attendent. Ils retrouvent l'abbé Jean Niu, qui dirige Li Shipao, et Vincent Wan, un des trois étudiants qui l'ont accompagné en Europe en 1920. Ils s'embrassent avec effusion. Les médecins de l'hôpital se déclarent hors d'état de faire quelque chose, et au bout de 3 jours, on le transporte à l'hôpital du gouvernement central à 15 kilomètres de la ville. L'abbé Niu lui apporte tous les jours la communion. Et les visites affluent, et un frère veille sur le malade. Il empêche qu'on le réveille quand il dort. Il demande qu'on évite certains sujets qui le font pleurer, comme celui de sa captivité chez les communistes, où il a tant souffert, où on l'a menacé de l'enterrer vivant, comme vous savez. Il ne parle plus que dans un souffle, et cependant, il croit encore qu'il va guérir. Il est prêt à mourir, mais son esprit est tendu à l'action au service du Seigneur et des Chinois. Puisque la médecine européenne n'y peut plus rien, on appelle en consultation un grand médecin chinois, Yu Kuanyin, qui prescrit une potion de racines de ginseng. Le 23 au matin, le 3 juin, le malade parle gaiement et montre de l'appétit, l'espérance monte. Tous sont rayonnants, puis ils retombent. Le Père Leb accepte les derniers sacrements. Aucune plainte ne s'échappe de sa bouche. Il est parfaitement soumis à ceux qui le soignent. Il obéit à tout ce qu'on lui dit. Il n'exprime que reconnaissance. Cette fois, il est prêt à mourir. Il expire tout simplement à 9h30 du soir. C'est le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, patron des Béatitudes, et de la fête du bienheureux Père Boire, dont je vous ai déjà parlé aussi, un lazariste, n'est-ce pas? Mort 100 ans auparavant, en 1840. Il a été canonisé, hein, Père Boire, le Père Père Boire. On est surpris du dénouement rapide de cette histoire, peut-être. Mais c'est bien comme cela qu'il lui convient de partir, servir, et puis partir tout simplement. Il n'est pas homme à s'attarder dans une longue décrépitude, c'est bien comme cela qu'il doit finir. Au milieu des combats, loin de chez lui, entouré de quelques-uns de ses amis chinois. Et le chanoine Leclerc continue en disant « Et la Chine prit le deuil. » Oui, et la Chine prit le deuil. Il n'exagère pas, écoutez bien. Le gouvernement fait mettre les drapeaux en berne dans tout le pays. Vous avez compris, hein? Tous les drapeaux sont en berne dans toute la Chine. Pour les funérailles, on forme une commission officielle avec le maréchal en tête et le général commandant la 12e division en queue. Lui, qui a tant aimé la pauvreté, il est dans sa mort au premier rang des riches. Près d'un mois plus tard, le 18 juillet, le gouvernement de la République prit un décret de louange en son honneur. C'est la première fois qu'un missionnaire est mis à l'ordre du jour de la nation. Écoutez bien la proclamation qui est faite. Lai Mingbe Yuan, c'est son nom, hein, de chinois, le père Vincent Leb, est d'origine belge. Il s'est naturalisé chinois dans sa jeunesse. À Tianjin et à Paiping, ou Pékin, il a exercé une action charitable et fondé des journaux. Tout le peuple de Chine le respecte. Dans la guerre contre le Japon, il a organisé les brancardiers et il a sauvé les blessés en diverses régions. Il a travaillé pour la patrie jusqu'au bout avec une inébranlable ardeur. Voici que nous apprenons sa mort. Pour nous, c'est une grande perte. Il faut le louer publiquement et déclarer son mérite. Ainsi nous décrétons, disent les Chinois. Dire qu'on a un monument au docteur Béthune, qui a beaucoup fait en combattant avec les communistes et en étant leur médecin, il est le seul nom, ce Montréalais, c'est le seul nom mentionné dans le petit livre rouge de Mao Tse-tung. Mais on n'a pas de monument en l'honneur du père Vincent Leb, on ne sait même pas qu'il existe. Et à mon avis, il est bien plus grand que le docteur Béthune, je crois. C'est mon, peut-être, que j'ai du parti pris. Au mois de novembre de la même année, il est mort, 3 jours, sont consacrés à honorer sa mémoire par toute la Chine. Enfin, le gouvernement décide qu'un jour déterminé sera consacré chaque année à la mémoire de Lai Mingyuan, ou le père Vincent Leb. Tels sont les honneurs de la terre. Le père Leb est maintenant devant son Seigneur, qui lui a dit « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Ce sont les paroles de l'Évangile. Eh bien, c'est comme ça qu'il est mort. Pourtant, cet humble, ce tendre, rayonnait l'héroïsme et la gloire, dans l'ordre humain aussi bien que dans l'ordre chrétien. Et chose exceptionnelle, s'il n'avait pas été un saint, il aurait encore pu être un héros comme Béthune et un héros de génie comme tant d'autres, et on parlerait de lui partout. Il cumulait ses 3 personnalités, mais il a choisi celle du Christ. Il était merveilleusement intelligent, il était fait pour comprendre. Oui, il était fait pour comprendre, avec un instinct très fort, d'un coup d'œil très sûr. Le père Leb comprenait, c'est-à-dire qu'il enveloppait la chose à laquelle il avait affaire, il en mesurait les proportions, puis il en saisissait les rapports. Mais avant ça, il savait en scruter les éléments. Et ses facultés d'assimilation le servaient de façon magistrale. Et avant de repartir à jamais pour la Chine au début de 1927, quand il était allé passer 7 ans en Europe, puis qu'il avait baptisé 300 Chinois là, en Europe, Il s'avise au tout dernier moment que la connaissance du russe pourrait lui être utile dans les luttes qui s'annoncent. Alors il a demandé qu'on lui procure les livres nécessaires. Et au moment où nous les lui remettions, il a voulu qu'on lui explique. Et M. Levaux annonce qu'il a appris les 36 lettres en quelques secondes. Il commençait déjà à savoir déchiffrer des mots russes. Et sans désapparir, s'est attaché ensuite à les prononcer à notre école. M. Levaux continue en disant, c'était un remarquable polyglotte, en outre, qu'il s'était livré à l'étude du latin et du grec, évidemment. C'était comme ça qu'on étudiait autrefois dans les collèges classiques, hein. Il avait étudié l'hébreu, ce qui se faisait souvent chez les prêtres, et ça se fait encore. Il s'était rendu magnifiquement maître du chinois, suffisamment même de l'anglais et de l'italien aussi. Les parties hautes de son esprit impressionnaient tout le monde. Il possédait l'ampleur de vision puis le regard d'aigle d'un conquérant. Et son nom chinois, Lai Mingyuan, qui veut dire le tonnerre qui chante au loin, est un homme de tonnerre, hein, qui est allé retentir au loin en Chine, ça lui convient à merveille, hein. Parce qu'il débordait paradoxalement de tout son être une force douce puis une violence qui enchantait tout le monde. Et dans ce petit prêtre, souvent empreint de majesté malgré sa taille exiguë, on retrouvait quelque chose de Saint-Bernard, du grand Saint-Bernard, qui a régné, lui, par l'esprit, au-dessus des rois, comme on dit quand on parle de Saint-Bernard. Ce n'était pas pour rien qu'il a voulu recommencer en Chine ce que Saint-Benoît avait fait en Europe. Et s'il n'était jamais canonisé, on pourrait le nommer patron de la Chine. La triple personnalité du Père Lem a atteint à une unité suprême, une grande simplicité. C'est un phénomène psychologique et spirituel plutôt rare. Hein? C'est un homme d'une telle envergure qu'on peut se demander comment il se fait qu'on n'entende pas ce que dit de lui le chanoine Jacques Leclerc, qui était professeur à l'Université de Louvain. Le chanoine Leclerc, qui a été son ami, a vu en loi la plus grande figure de l'Église contemporaine. C'est pas peu dire. Et le chanoine Leclerc dit, dans la perspective des siècles, je crois que le père Vincent Lebbe apparaîtra comme un de ces géants qui ont fait prendre à l'Église les tournants de l'histoire. Et je crois qu'il a été l'un des grands saints de l'Église. J'espère avec une ferme confiance qu'il sera canonisé dans le plus bref délai, et je suis convaincu que les miracles vont fleurir sur sa tombe. Et j'aime bien ce que dit une bénédictine anglaise, qui est intimement connue, le père Vincent Lebbe. Elle dit, pendant ma vie, ce caractère singulièrement simple et saint, je l'ai bien connu. J'ai eu le privilège de connaître beaucoup de saints, mais jamais, jamais, quelqu'un ne m'a donné comme le père Vincent Lebbe l'impression que Dieu était si proche, si accessible, si possible à trouver. Et Paul Claudel s'écrit, quelle grande figure, quel rôle providentiel il a soutenu avec tant d'héroïsme à travers tant de difficultés. Quel honneur pour son pays d'avoir donné naissance à ce héros, c'est la Belgique. Vincent Lebbe a laissé des écrits, des pensées, des maximes qu'on peut récolter dans ses livres, dans ses sermons et tout ça. Il dit à un moment donné, écoutez bien ça, j'ai vu un Chinois et il se met du riz. Je lui demandais, pourquoi semez-vous du riz? Il me dit que c'était pour manger. Et pourquoi voulez-vous manger? Eh bien, pour être fort. Et pourquoi voulez-vous être fort? Pour être capable de travailler et de semer du riz. Et il ajoute, le père Vincent Lebbe, « Pensez-vous que Dieu ait fait cet homme seulement pour qu'il puisse être assez fort pour semer du riz? Toute sa vie se passait à semer du riz afin de le manger et d'être assez fort pour semer encore du riz. Il dit ailleurs, nous sommes comme des gens dans un train. Nous voyageons et quelqu'un dit, où allez-vous? Quelle est votre destination? Vous répondez, bon, je n'en sais rien, absolument rien. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je vais. Je me contente de jouir du voyage. Ce qui arrivera à la fin ne me regarde absolument pas. Il dit aussi, tout être ne peut atteindre son plein épanouissement qu'en vivant sur le plan de la vie la plus haute de celle qu'il a reçue et qui est en fait sa vie, c'est-à-dire la vie du Christ. Vouloir descendre n'est pas seulement une lâcheté et une indignité, c'est violer une loi divine, ce qui ne se fait jamais impunément. Il dit aussi, si l'Antiquité avait connu une seule petite sœur de Saint-Vincent de Paul, elle en aurait fait une déesse. Je dirais de mon côté, si l'Antiquité avait connu une seule petite sœur des pauvres, si l'Antiquité avait connu une seule petite sœur de la charité de Mère Thérésa, si l'Antiquité avait connu une seule petite sœur de miséricorde, une seule petite sœur de la Providence, une seule petite sœur grise, une seule petite sœur de n'importe quelle congrégation généreuse, donnée, dévouée. Eh bien, l'Antiquité en aurait fait des déesses, des millions de déesses. Les chrétiens, dit-il, dit Vincent Leb, ce sont ceux qui, faisant l'inventaire de toutes les richesses qui sont en eux, et y trouvant la vie divine, ont décidé de la vivre et de lui soumettre toutes les autres vies comme des servantes à une reine. Et eux aussi n'arrivent pas tous au même résultat. Tout dépend, comme dans les autres catégories, de l'effort, du travail. Ceux dont le rendement est le plus complet sont les saints. Les saints sont seulement ceux qui ont pleinement vécu leur vie, la vie de leur baptême. Et le père Vincent Leb termine en disant, ils sont à la vie surnaturelle, ce que les savants sont à la vie humaine, les grands sportifs à la vie animale. Oui, les grands sportifs à la vie animale, imaginez. Les primés des concours de mangeurs, les messieurs, et de beauté, les dames, à la vie végétative. Je vous laisse réfléchir sur ces paroles très dures. Le père Vincent Leb dit aussi, le christianisme est une vie avant tout. Il pénètre dans l'âme bien plus vite et plus sûrement par l'acte que par de trop longues pensées. Oui, vraiment, nous ne sommes rien. Notre vie est entre les mains de Dieu. Oui, vraiment, sur cette pauvre terre, il n'y a qu'une chose qui compte, qui vaille la peine d'être recherchée pour elle-même. Et c'est la vertu dont je vous ai parlé il y a quelques jours. La vertu, le développement de la vie du baptême qui, elle, ne finit pas. C'est la vie éternelle. Il dit aussi, c'est ici qu'apparaît une des supériorités de la Sainte Église de Dieu sur n'importe quel organisme humain. Oh, je vais faire sauter quelques personnes en lisant ce qui suit, mais je le lis quand même. C'est ici qu'apparaît une des supériorités de la Sainte Église de Dieu sur n'importe quel organisme humain. Cette mise au point de l'Évangile éternel est immuable pour chaque âge de l'humanité et pour chaque pays. C'est notre Saint-Père le Pape, la bouche du Dieu vivant, qui nous l'a fait. Imaginez que j'éprouve une grande soif, écrit-il ailleurs. J'avise un magnifique verre d'eau, une eau parfaitement limpide. Ah, je vais pouvoir me désaltérer. À l'instant où j'avance la main pour saisir le verre et boire, un monsieur se précipite et me retient en s'écriant, « Malheureux, qu'allez-vous faire ?»« Mais boire, j'ai très soif et cette eau est très fraîche. » Vous ne savez donc pas ce qui vous attend, regardez plutôt. Et le monsieur qui m'a retenu saisit un microscope. Il y dépose une goutte de l'eau convoitée en m'invitant à me rendre compte. Alors je mets l'œil à la lunette du microscope. Horreur! La goutte d'eau est toute grouillante d'affreux microbes, celui du typhus, celui du choléra et que sais-je. C'est aussi pur en apparence. C'est l'erreur trompeuse, dont le principe mauvais n'est pas pour moi perceptible à l'œil nu. Et le microscope est bien, c'est le pape. Ce que je ne puis découvrir par moi-même, le pape, lui, le discerne et me le fait voir. C'est pour cela qu'il faut l'écouter et le suivre. Et j'ose ajouter que je ne peux que vous recommander de lire les dernières encycliques de notre pape actuel, Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, et Foi et raison est paru le 14 septembre. Ce sont de grands textes. Ce sont des remparts contre la barbarie. Ce sont des chemins de lumière que le Christ nous envoie par la plume du pape actuel. Il dit aussi à un moment donné, Vincent Leb, une parole d'une ligne que j'aime beaucoup. « Une vie sans difficulté vaudrait-elle la peine d'être vécue ?» Oui, une vie sans difficulté vaudrait-elle la peine d'être vécue ? Il dit aussi « Le bon Dieu t'aidera d'autant plus que tu seras obéissant. » Sainte obéissance, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, hein? Il dit « Le chemin de la perfection, car il n'y en a qu'un, c'est le renoncement et l'amour. » Il n'y a pas de programme spécial de perfection, dit le père Vincent Leb, pour ceux qui, dans son inconcevable amour, le bon Dieu a prédestiné la glorieuse vocation d'aller servir sur le front des missions. Pas plus qu'il n'y en a pour les autres chrétiens, il y a le programme, l'unique, le seul programme, la seule voie, vérité et vie. Hein, c'est le Christ qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Il ajoute « C'est le programme des baptisés, des consortes facti divine nature ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire de ceux qui ont été faits participants à la nature divine. D'être parfait comme votre Père est parfait. Car la volonté de Dieu, c'est que vous soyez parfait. Parole prononcée par l'apôtre Saint Paul pour ceux qu'il venait de baptiser et qu'il entraînait à sa suite vers le bonheur, le plus grand bonheur qui est celui d'être un saint. Par toute la terre s'en va leur message. C'est le verset du psaume aujourd'hui en la fête de Saint Simon et Jude qui ont été de grands apôtres et de grands missionnaires. Par toute la terre s'en va leur message, et le message du Père Vincent Leb est parti à toute la terre. Jésus descendit de la montagne, dit l'Évangile aujourd'hui. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Allons donc toucher à la Sainte Hostie aujourd'hui. La grâce, la vie sort de cette hostie et nous pénètre, nous guérit et nous fait vivre. L'antienne de communion, c'est si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui.